Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon vendredi après-midi, c'est la dernière de la semaine. Vous écoutez, c'est bon pour la santé sur Canal M. Marianne Paquette pour vous accompagner. Si vous avez des enfants d'âge scolaire à la maison, vous avez peut-être reçu dernièrement une note de la direction qui vous explique les mesures à prendre advenant le cas d'une épidémie de poux. Ouais, jamais vraiment désiré les poux, mais bon, ça arrive à n'importe quel moment de l'année, dans n'importe quel genre de famille. Et surtout lorsque la rentrée scolaire arrive quelques semaines aussi après cette rentrée, on est plus susceptible de découvrir ces indésirables dans la tête de notre enfant. Tout à l'heure, Jocelyne Gadbois, infirmière, nous renseigne sur la transmission des poux, aussi à quoi ça ressemble, à quoi on doit s'attendre. La prévention aussi et les traitements. Et puis, si je vous dis démangeaisons intenses, des boursouflures rougeâtres, boursouflées, qui peuvent être petites ou grandes, sur le visage, les mains, les organes génitaux, même dans les muqueuses, ça vous sonne peut-être des cloches. Je parle ici d'urticaire, qui est loin, bien sûr, d'être agréable, mais qui peut toucher pas mal de monde. J'apprenais jusqu'à 20 % de la population peuvent vivre une période d'urticaire au moins une fois dans leur vie. Les conséquences sont diverses, les causes variées, parfois difficiles à identifier. On fait le tour de la question à l'instant avec Dr Philippe Bégin, allergologue au CHUM et au CHU Sainte-Justine. Docteur Bégin, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui, très bien, vous-même?
Oui, très bien.
Bon, l'urticaire, je le disais tout à l'heure, jamais rien d'agréable. Toutefois, c'est quelque chose que, en tout cas du moins pour ma part, j'associais beaucoup au stress. Mais est-ce que c'est vraiment toujours la bonne piste?
En fait, comme vous l'avez dit tantôt, vous avez bien décrit qu'est-ce que c'était, puis les causes, effectivement, peuvent être variées. Une des causes très fréquentes, c'est qu'il n'y a pas de cause aussi. Ah. On peut chercher des fois très longtemps sans trouver. Puis des fois, on peut presque virer fou à chercher.
L'urticaire, c'est une maladie de la peau.
Exactement. Donc, en fait, une maladie précisément des cellules d'allergie dans la peau. Hein, on les appelle les mastocytes, mais ceux qui sont responsables de nos réactions allergiques. Mais attention, oui, les allergies vont causer de l'urticaire, mais tout urticaire n'est pas nécessairement allergique. Des fois, ces petites cellules-là peuvent être déréglées, peuvent être chatouillées pour d'autres raisons et nous donner des crises d'urticaire, là. Donc, il faut faire attention de ne pas faire une équation ici, oui, entre allergie et urticaire.
Mais c'est bien que vous l'ayez bien identifié dès le départ, parce que les gens auraient pu se dire, mais là, on parle d'urticaire, je veux entendre un dermatologue. Mais non, on parle avec un allergologue aujourd'hui, parce que parfois, l'urticaire peut être de type allergique, mais il y a différents types également.
Exactement. En fait, on voit beaucoup d'urticaire dans notre pratique en allergie, parce que souvent, les gens croient d'emblée ou sont référés parce que les gens croient, leur médecin a cru que c'était une allergie. Mm-hmm. Donc, on voit autant d'urticaire allergique que non allergique, ultimement. En fait, on sépare les urticaires en deux grandes familles, là, ce qu'on appelle les urticaires aigus et les urticaires chroniques. Okay. De façon ou d'une autre, c'est la même chose. Donc, c'est cette plaque, soit petite, soit grosse, qui est comme une boursouf au niveau de la peau puis qui pique. Ça ressemble en fait à une piqûre de maringouin. Comme la piqûre de maringouin, elle va rester à la même place pendant des fois 48-72 heures, la plaque d'urticaire, elle va avoir tendance à venir puis repartir. Quand on en a beaucoup, des fois, elles vont être confluentes, se fusionner les unes aux autres pour faire des plaques gigantesques. Ça peut être n'importe où sur le corps parce qu'on a ces petites cellules d'allergie-là partout dans notre peau et même dans les muqueuses au niveau de la bouche, au niveau digestif aussi. Alors, on divise l'urticaire en urticaire aigu, urticaire chronique, et c'est très simple. Quand c'est aigu, c'est qu'on fait de l'urticaire, pouf, tout d'un coup, et puis ça ne revient pas nécessairement, donc quand ça dure moins de 6 semaines. Puis il y a des gens qui font de l'urticaire chronique, donc c'est des crises qui vont persister au-delà de 6 semaines, et puis là souvent les gens, c'est là qu'ils viennent à notre bureau, un peu découragés, là.
Mais Philippe Bégin, on fait comment pour savoir que c'est de type allergique et que peut-être que notre vie est en jeu et qu'on doit se présenter aux urgences?
Quand on a un urticaire chronique, que ça fait plus de 6 semaines que ça dure, c'est jamais de l'allergie.
Ah, OK.
Alors, c'est vraiment les urticaires aiguës qui peuvent être allergiques. Mais même dans le cas d'un urticaire aigu, chez les enfants, par exemple, 80 % du cas, ce ne sera pas allergique, mais ça va être viral. Parce que ces petites cellules-là font partie du système immunitaire. Donc, quand le système immunitaire est sur ses gardes, il est activé à cause qu'on se défend contre un virus ou une bactérie, on peut avoir de l'urticaire aussi.
Okay.
Chez les adultes, on a aussi des urticaires par infectieux. Dans 50 % du cas, en fait, des urticaires aigus vont être causés par une infection. Donc, la majorité des urticaires ne sont pas allergiques à la base. Alors, qu'est-ce qui va nous faire dire que ça prend une intervention immédiate ou pas? Ben, en fait, c'est simple. Si c'est une réaction seulement de la peau, que de l'urticaire de la peau, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On ne va pas donner de l'adrénaline, des choses comme ça. Par contre, si on a une réaction qui va au-delà de la peau, par exemple, j'ai de la difficulté à respirer, j'ai le nez complètement congestionné, je me sens étourdi, j'avoue, mais je fais une crise d'asthme. Ben là, ça montre que ce n'est pas que de l'urticaire. Ouais. On a une réaction anaphylactique, c'est une réaction allergique du corps entier. Alors là, il faut définitivement aller à l'urgence.
Et ça, dans les plus brefs délais.
Exactement.
maintenant, on le disait, les causes peuvent être multiples. Nourriture, médicaments, est-ce qu'il y a d'autres causes à l'urticaire?
Bien, encore là, il faut départager les choses. Donc, si on parle d'un urticaire aigu, donc dans la majorité des cas, ça va être infectieux, ça va rentrer dans l'ordre tout ça. Ça peut durer une à deux semaines, le temps que le virus s'en aille. Si c'est causé par une allergie comme telle, généralement, c'est encore plus court. Hein, une allergie alimentaire, on va avoir notre crise d'urticaire très rapidement après, dans les deux heures qui suivent. Et le lendemain, généralement, ça va être complètement rentré dans l'ordre aussi. Par contre, chez nos gens qui font de l'urticaire chronique, dans 95 % des cas, il faut qu'on appelle l'urticaire chronique idiopathique, c'est-à-dire qu'on n'identifie pas de cause comme telle. Les études nous montrent que chez la moitié de ces gens-là, on va être capable de trouver une cause auto-immune là, si on fait de la recherche un petit peu poussée au niveau de leur sang. C'est vraiment un dérèglement. C'est comme si leur cellule d'allergie était chatouilleuse, beaucoup plus que la normale. Alors, ces personnes-là, souvent, il n'y a pas une seule cause, mais il y a plein de petites causes qui vont les déranger. S'il fait plus chaud, s'il court, ils vont avoir de l'urticaire qui peut sortir au niveau du cou. S'ils sont stressés, c'est une autre chose qui peut faire sortir les plaques. La pression, souvent au niveau de la ceinture, pour les hommes, au niveau du soutien-gorge, pour les femmes, peut déclencher les plaques. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle l'urticaire au froid. Donc, c'est juste lorsqu'ils vont atteindre une certaine température, la peau va être un peu plus froide. Disons, quand la peau sera à 10 degrés Celsius, il y aura une plaque d'urticaire qui va sortir. Donc des stimulus physiques comme ça peuvent déclencher les crises d'urticaire.
Donc, manifestations diverses, causes diverses également. Je reviens un petit peu aux gens qui sont susceptibles de développer. Je le disais tout à l'heure en introduction, 20 % de la population, c'est quand même beaucoup, une personne sur cinq. Est-ce qu'on parlait tantôt de système immunitaire, les personnes âgées, par exemple, ou qui ont différentes maladies peuvent être plus susceptibles de développer de l'eczéma?
De l'urticaire?
De l'urticaire, ben oui. Eczéma, ça, c'est un lapsus parce que moi, je fais de l'eczéma.
non, mais c'est un très bon point à amener parce qu'en fait, souvent, le monde sont pas la différence entre l'eczéma et l'urticaire, qui sont deux manifestations au niveau de la peau reliées aux allergies. Là. Alors que l'eczéma, c'est des plaques qui ont tendance à rester au niveau des plis cutanés, plis de coude, plis de jambes, dans les oreilles. Ça peut démanger beaucoup aussi, mais ça va rester à cette place. Alors que l'urticaire, ce sont des boursouflures qui vont se promener partout sur le corps.
Ça se déplace,
alors, pour répondre à votre question, encore là, ça dépend de quel type d'urticaire qu'on fait. Donc, si on est dans un urticaire causé par des allergies, évidemment, ben, c'est les gens qui ont le profil allergique, là, rhume des foins, allergies alimentaires, tout ça qu'ils vont faire. La majorité des gens qui vont faire un urticaire sous l'urticaire chronique, c'est pas allergique à ce moment-là. Et oui, un profil, c'est plus souvent des femmes que des hommes. Mm-hmm. Au niveau de l'âge, c'est souvent des jeunes femmes, donc de la vingtaine jusqu'à la quarantaine, là, c'est notre pic de fréquence. Il peut aussi avoir des hommes, évidemment, il peut avoir des très jeunes, il peut avoir des personnes plus âgées aussi. Ça peut affecter tout le monde. Mais il y a un certain profil ici, possiblement pour des causes hormonales. On sait qu'avec la grossesse, on peut, ou avec les ménopauses aussi, on peut avoir une augmentation de nos crises d'urticaire. on a l'impression que c'est peut-être la fluctuation d'hormones plus que l'hormone elle-même là, qui va venir chatouiller notre mastocyte, notre petite cellule d'allergie.
Vous parlez, Dr Bégin, que l'urticaire peut parfois, dans certains cas, davantage cibler des femmes âgées entre 20 et 40 ans. Et ça me fait penser à une chose dont j'avais déjà entendu parler, c'est-à-dire le lien entre urticaire et sclérose en plaques. Et on sait que sclérose en plaques touche aussi également davantage de femmes âgées entre 20 et 40 ans. Est-ce qu'il y a véritablement un lien à faire?
Bien, il y a, comme je vous disais, la moitié des urticaires chroniques, les urticaires qui persistent, ont une composante auto-immune. On va être capable de trouver d'autres maladies auto-immunes chez le patient. C'est pas spécifique à la sclérose en plaques. En fait, la maladie auto-immune qu'on va trouver le plus souvent chez nos patients avec urticaire, c'est aussi une maladie auto-immune les plus fréquentes, c'est l'hypothyroïdie.
Ah oui, OK.
Auto-immune de la thyroïde. Là. Donc, presque le tiers de nos patients, avec ce qu'on est capable, auto-immune, on est capable d'identifier les auto-anticorps dirigés contre la thyroïde. Là. Donc, oui, il y a un lien à faire. C'est le système immunitaire qui a une tendance à réagir contre les cellules du soi, de ne pas attaquer un autre organe comme la thyroïde ou à attaquer les petites cellules d'allergie au niveau de la peau. Et puis là, ce qu'il va faire, ce qui est intéressant, c'est que nos auto-anticorps ne vont pas détruire nos petites cellules d'allergie ou de la peau. Ils vont les activer, juste parce que le match est bon pour le récepteur d'activation sur cette cellule-là. Donc, ça va donner des crises d'urticaire.
Mm-hmm. Est-ce que l'on peut penser que si la glande thyroïde est bien contrôlée, on peut éviter des périodes d'urticaire?
Bien, en théorie, ça ne devrait pas, parce que c'est supposé être deux mécanismes séparés. Ah, mais en pratique, on a quand même l'impression que de contrôler la glande thyroïde aide. Mais bon, c'est sûr que la glande thyroïde, elle a beaucoup, beaucoup de rôle. Les patients qui ont des dérèglements au niveau de la glande thyroïde, ça va affecter la peau aussi. Donc, est-ce que c'est seulement l'effet d'améliorer les effets de l'hypothyroïdie qui vont améliorer l'urticaire? C'est possible aussi.
Et je reviens un petit peu, Dr Bégin, aux gens qui sont davantage à risque. Est-ce que des gens qui vivent avec des allergies sont davantage à risque de développer de l'urticaire? Je pense à des gens qui auraient des allergies aux arachides ou aux poissons, aux crustacés. Est-ce qu'ils font partie de cette clientèle plus à risque, finalement?
C'est qu'ils vont être à risque de faire des réactions d'urticaire dans le cadre de leur allergie, s'ils ont un accident. Mais en dehors de ça, ces deux choses sont complètement distinctes.
Okay.
L'urticaire chronique n'a aucun lien avec les allergies à la base. Donc, on peut être malchanceux, on peut avoir les deux, mais on n'a pas plus de risque.
Maintenant, est-ce que c'est possible de prévenir? Je lisais certaines données qui parlaient de flore intestinale en bonne santé et prévention de l'urticaire. Est-ce que c'est une piste qui est à suivre?
Côté prévention, en fait, c'est difficile d'identifier c'est qui va développer un urticaire chronique, mais disons quelqu'un qui a déjà un urticaire chronique. Il y a certaines études qui regardent les flancs bactériennes. C'est des petites études, fait que c'est difficile de tirer des conclusions puis de faire des recommandations basées là-dessus. Donc, certaines études qui montrent que ça semble fonctionner, d'autres qui montrent que ça n'a pas fonctionné, mais jusqu'à ce qu'on ait une grosse étude pour tester les probiotiques, ça va être difficile à dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'urticaire chronique, il faut d'abord rencontrer son médecin là, pour s'assurer que c'est vraiment ça puis qu'on ne se trompe pas. Une fois que votre médecin vous a dit « vous faites de l'urticaire chronique », c'est une maladie bénigne, dans le sens que c'est pas dangereux pour la vie. C'est très incommodant. Alors, le traitement consiste à prendre des antihistaminiques, les mêmes antihistaminiques qu'on va prendre pour nos allergies, mais souvent à beaucoup plus haute dose. Puis on va contrôler les symptômes. Puis ce qu'on sait, c'est que la moitié des gens, après 6 mois, ça va être rentré dans l'ordre. Ce qui veut dire qu'il y a la moitié des gens qui, après 6 mois, ça continue. Et puis, il y a 1% des gens qui, après 25 ans, ils font encore de l'urticaire régulièrement. Mais ces gens-là, ils vont prendre leurs antihistaminiques régulièrement. Puis souvent, ça va contrôler la maladie. Puis l'autre chose qu'ils vont en savoir, c'est que maintenant, des nouveaux traitements qui sont apparus. Encore, on utilise nos traitements d'allergie, même si c'est pas une allergie, puis ça semble fonctionner. Fait qu'il y a beaucoup d'espoir pour ces patients-là, parce que des fois, les gens viennent nous rencontrer, puis même si on leur dit « c'est pas une maladie dangereuse pour vous », ils disent « oui, mais j'ai plus de vie, là. Je ne dors plus la nuit. » Fait qu'il faut s'en occuper.
Est-ce qu'il y a des risques de complications? Ben, j'imagine dans les cas où c'est lié à une allergie, oui, là?
Oui, ben exactement. Donc, si c'est une réaction aiguë de type allergique, ben là, ça peut aller plus loin parce qu'on peut avoir une crise d'asthme avec ça, une crise digestive, une chute de pression. Dans le cas de l'urticaire lui-même, c'est rare que ça complique. Des fois, ça va être très impressionnant parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle l'angédème, les lèvres qui enflent. Mais si dans le contexte d'une urticaire chronique, on n'a pas de gorge qui se ferme comme dans les réactions anaphylactiques. Donc, c'est pas dangereux comme tel pour la vie. Mm-hmm. L'impact est vraiment sur le niveau de qualité de vie parce que ça donne des niveaux de qualité de vie qui sont assez médiocres. Puis quand on compare ça avec des maladies de la peau graves, on a le même impact, là.
Est-ce qu'il y a des traitements que l'on pourrait faire à la maison? Je pense, par exemple, à des bains apaisants ou autres petits trucs comme ça dans le quotidien?
Les bains apaisants, c'est pas une mauvaise idée pour deux choses, parce que le stress peut aider. C'est sûr que si on a la peau sèche de base, on va avoir, même si on n'a pas d'eczéma à la base, on va avoir tendance à se gratter plus. Et puis, comme je disais au début, un des déclencheurs pour la plaque d'urticaire, souvent, c'est les stimulus physiques. Donc, plus on se gratte, souvent, on va voir apparaître un peu de dermographie, c'est des plaques d'urticaire qui suivent la trace de nos ongles sur la peau. Là. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que moins on se gratte, mieux ça va être. Donc, ça peut aider. Il y a certaines choses qui peuvent empirer la crise. Donc, on parlait de stress plutôt, mais les gens ont dit souvent les aliments épicés, les aliments acides. Puis souvent, on va dire, je crois que je suis allergique aux tomates, aux fraises. Le monde fait des tests d'allergie. Il n'y a aucune allergie, mais c'est classique parce que c'est des aliments qui sont très acides. Ça va déclencher des plaques d'urticaire au niveau du visage, souvent, quand ils vont en prendre. Les vêtements serrés, ça peut déranger aussi. Et des choses qui vont aller chatouiller directement nos petites cellules d'allergie de la peau, c'est l'alcool, c'est souvent après l'alcool, ou les anti-inflammatoires, donc toute la famille de l'Advil et puis du naproxen, de l'ibuprofène aussi, qui est la même chose que l'Advil. Donc, ça, des petites choses qui vont déranger l'urticaire, qu'on peut changer facilement dans notre vie de tous les jours pour diminuer les crises.
Et pour les femmes, les cosmétiques aussi, j'imagine, le maquillage, entre autres?
Là, il y a une différence à faire, parce que souvent, ce qu'on va avoir avec les cosmétiques, c'est des dermites de contact. Donc, là, c'est vraiment de l'allergie au niveau de l'application, au niveau de la peau. Donc, ce ne sera pas nécessairement des crises d'urticaire qu'on va avoir, souvent, c'est des plaques d'eczéma qu'on va avoir plus avec ces choses-là. Okay. Donc là, on parle plus du registre de l'allergie. Donc là, ça, c'est pas généralisé à tout le monde. C'est au cas par cas, selon les allergies chacun.
Et en terminant, Dr. Philippe Bégin, vous travaillez également du côté du CHU Sainte-Justine. Donc, l'urticaire peut toucher également les enfants. Ça peut se déclencher à partir de quel âge?
Ah ben, on voit des tout-petits là, qui ont un an et qui font de l'urticaire. En fait, souvent, les tout-petits ont la peau tellement sensible que eux autres, souvent, c'est de l'urticaire aiguë, d'abord, qu'ils vont faire sur des virus. Ce qui fait qu'en fait, la majorité de nos patients qui ont des histoires d'allergie à la pénicilline, quand on fait les tests, ne sont pas allergiques à la pénicilline, ils ont fait une réaction d'urticaire sur leur infection pour laquelle on avait donné de la pénicilline. Donc, c'est vraiment très, très fréquent chez les tout-petits des crises d'urticaire. Évidemment, si on pense que c'est lié à un aliment, si on pense que c'est lié avec un médicament ou avec une piqûre d'insecte, comme une guêpe ou une abeille, ben, faut pas prendre de chance, on va faire les tests, là. Mais les chansons, en fait, c'est juste une crise d'urticaire passagère puis que c'est pas grave.
Oui, la seule chose, j'imagine, pour les parents, c'est cette espèce de... Ben, on sent que notre enfant souffre puis on sent qu'on peut rien faire, là.
Oui, bien en fait, on peut, si ce n'est que de l'urticaire, on peut quand même donner des antihistaminiques. Là. Il y a l'Aérius qui est en sirop, là, qui est disponible. Le Benadryl aussi, hein, ça endort beaucoup. Donc, on peut donner ça aux enfants s'ils font une crise d'urticaire dans le contexte d'une infection. Mm. Évidemment, il faut rester à l'affût, parce que si c'est une réaction allergique grave, une anaphylaxie, où l'enfant a de la difficulté à respirer, il éternue beaucoup avec ça, il tousse, il sent étourdi, il ne répond pas, on ne parle plus d'urticaire, non. On parle d'une réaction allergique, puis il faut aller à l'urgence. Mais si ce n'est que la peau, dans un contexte non allergique infectieux, par exemple, on peut donner du Benadryl ou de l'Aérius sans problème.
Dr. Philippe Bégin, je le rappelle, vous êtes allergologue. Oui, merci beaucoup de nous avoir fait connaître davantage l'urticaire, même si on touche du bois là, pour ne pas vivre de période de crise.
Absolument, ça me fait plaisir.
Merci, au revoir.
Ça me fait plaisir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Jocelyne Gadbois, infirmière, bonjour, merci d'être là.
Bonjour, Marianne.
Même si c'est pour parler d'un sujet qui, bon, en fait, du moins que l'on ne souhaite pas voir arriver au sein de notre famille, ce sont les poux. Et je le disais tout à l'heure en introduction, il n'y a pas de saison pour les poux, mais évidemment, c'est souvent rattaché à cette rentrée scolaire. Bon, les poux, ça arrive dans n'importe quelle famille. Personne n'est à l'abri. Je pense que c'est important de le mentionner d'entrée de jeu, Jocelyne.
Absolument. C'est un problème qui n'est pas du tout lié à l'hygiène personnelle. Alors, il ne faut pas se sentir malheureux. Et ben, malheureux, oui, parce que c'est beaucoup de travail sans défaire. Mais il ne faut pas se sentir coupable surtout de ça. Le poux, c'est un petit insecte qui mesure à peu près 2 à 4 mm, moins qu'un petit grain de riz, je dirais, et qui a des phases de vie. Alors, il commence par la lente, qui ressemble à une petite pellicule. Ensuite, cette lente-là prend à peu près 7 à 10 jours à éclore et devenir un petit pou, qu'on appelle la nymphe à ce moment-là. Et ce petit pou va grandir, il va devenir à l'âge adulte. Il peut vivre jusqu'à un mois sur la tête.
OK.
Absolument. Ils se nourrissent de sang. Ils aiment la chaleur, donc ils se tiennent en arrière des oreilles, à la nuque, à la base des cheveux et sur le dessus de la tête, comme tel.
Bon, la lente, là, qui ressemble à une pellicule, bon, elle bouge, par exemple. Contrairement à une pellicule, est-ce qu'elle saute? Est-ce que c'est vrai qu'on peut voir les poux sauter dans la tête?
Bien, la lente, elle s'accroche à un cheveu et elle est proche de la racine du cheveu. Uh-huh. Elle ne bouge pas parce qu'elle est accrochée pendant le temps de sa maturation. Le pouls, lui, peut circuler sur la tête. Alors oui, on peut le voir.
Et ça se passe comment, la transmission des pouls?
Alors, c'est la proximité d'abord, alors d'un cheveu à l'autre, d'un cheveu d'une tête à l'autre cheveu d'une autre tête. Et ça peut se transmettre aussi par les tuques, les brosses à cheveux, les élastiques. Les écouteurs aussi, je dirais.
Ah, ben oui.
Et si on a beaucoup de poux, puis on s'assoit sur un divan en tissu, bien, le dossier du divan peut aussi servir de zone pour le poux.
Mais j'imagine que c'est pour ça que l'on dit aux familles, si votre enfant a des poux, il faut tout laver, là. Les draps, les serviettes, tout y passe.
Oui, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer de l'élimination des œufs. Alors, les têtes d'oreiller, le lit, les tuques, tous les chapeaux, les brosses, comme je disais. Puis, il faut passer la balayeuse partout. Et puis, il faut passer un linge sur notre divan. Effectivement, le poux ne va pas vivre à l'extérieur du corps parce qu'il se nourrit de sang.
Ah, ben oui.
Mais si c'est immédiat, il peut vivre quand même quelques temps, là. Alors, on évite ça. Et si on veut se débarrasser des poux dans des objets qui ne se lavent pas, on les met dans des sacs de plastique pendant 7 à 10 jours.
OK. Et le poux peut mourir de cette façon-là.
Oui, c'est ça.
Est-ce que le poux peut s'attaquer à nos animaux domestiques?
C'est pas la même sorte d'insecte qui va aux animaux domestiques. On appelle ça des puces pour les animaux.
OK.
C'est un autre insecte.
Bon, on le disait tout à l'heure, personne n'est à l'abri, mais est-ce que certaines personnes sont plus susceptibles de développer des poux?
Non, pas vraiment. Tout le monde est susceptible de développer des poux.
Est-ce que...
Vraiment, il n'y a pas de clientèle cible en particulier. On dit qu'on les rencontre le plus souvent chez les enfants, mais on peut les rencontrer aussi chez les adultes.
Et si on a les cheveux longs, peut-être que c'est plus long à identifier?
Bien, long ou court, qu'est-ce qui va faire qu'on va reconnaître qu'on a des poux? D'abord, la première chose, la démangeaison. Ça va piquer dans la tête. L'enfant ou l'adulte va se gratter partout. Et ensuite, bien, on va voir cette petite lente qui est comme blanchâtre, puis qui est comme craquante un petit peu. Et ça, c'est le bébé poux, on peut dire, qui est accroché là. Et là, le mieux, c'est de les enlever avec un peigne fin qu'on se procure à la pharmacie.
OK.
Alors, c'est le travail des mamans avec les enfants à l'école, quand on annonce qu'il y a des poux, mais même sans qu'on annonce qu'il y a des poux, quand ils font le lavage de tête de leur enfant, qu'ils s'assurent de vérifier aux endroits que j'ai nommés tantôt, l'arrière des oreilles, la nuque et le dessus de la tête, de regarder s'il n'y a pas des lentes qui sont là.
Oui.
Et d'enlever avec un peigne fin, c'est de vérifier. Alors, un adulte demande à un autre adulte de vérifier.
Oui, de le faire un petit, peut-être un petit peu plus souvent qu'on,
oui,
qu'on
oui.
penserait.
C'est la vérification qui est vraiment le moyen de prévention, si on peut dire. Mais une fois qu'on est en une fois qu'il y a des enfants qui ont des poux, qui jouent avec d'autres enfants qui ont des poux, malheureusement, il y a des risques de transmission énormes.
On va y passer. Bon, les traitements, souvent, pour avoir parlé avec des parents qui ont vécu ce genre de situation à la maison, les traitements, il paraît que c'est assez cher.
Oui, les traitements sont dispendieux, mais moyennement dispendieux. Moyennement dispendieux. Puis il n'y a pas d'autre chose que ces produits-là à la pharmacie qui sont utiles pour les poux. Puis il y a la pémétrine aussi, qu'on utilisait beaucoup, beaucoup pour les traitements d'antipédiculose et qui font que les poux ont développé une résistance. Alors, le mieux, c'est de consulter le pharmacien point spéciaux en prévention. Vraiment pas. Puis normalement, il faut au moins un à deux traitements pour s'assurer vraiment qu'il n'y a plus de poux. Puis la vérification quotidienne avec le peigne fin.
On a toutes ces visions, on a tous ces visions d'horreur où on doit se faire raser ou couper les cheveux court, mais c'est pas nécessaire.
C'est pas
ça.
Nécessaire. Puis avant, on excluait les enfants de la classe quand ils avaient des poux. Maintenant, on ne le fait plus. Alors, il s'agit de bien attacher les cheveux, mettre un petit bandeau pour que ça tienne bien et éviter que les cheveux soient au vent. Les cheveux courts, bien ici, les cheveux sont courts. Il y a un petit peu moins de risque avec les cheveux courts parce que les cheveux, il y a moins de surface de cheveux. Voilà.
Est-ce qu'il peut y avoir des complications si ce n'est pas traité?
Bien, c'est-à-dire qu'une grande infestation de poux, puis les shampoings répétés, je dirais, vont faire qu'ils ne vont plus agir, ces shampoings-là, puis il va falloir changer de shampoing.
Oui, voilà. Puis après, que c'est un épisode désagréable pour tout le monde. Là.
Absolument. Mais quand il y a des poux dans les écoles, maintenant, les infirmières scolaires envoient des lettres à tous les parents. On le sait, il y a une surveillance qui se fait automatiquement de ça.
Oui, parce que les informations circulent de plus en plus, puis c'est un petit peu moins tabou, là, justement.
C'est ça.
Oui.
Puis on sait qu'il va en avoir de toute façon. De toute façon, c'est cyclique.
Voilà. Jocelyne Gadois, vous aussi, votre venue, elle n'est pas cycliste, mais vous venez deux fois par mois, donc c'est toujours un plaisir de vous recevoir.
Ça me fait plaisir, Marianne.
Rémière Moseau à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous lundi. Bon week-end. Portez-vous bien. Bye-bye.